comme non-musicien, il a contribué à la recherche d'approches conceptuelles autour de la musique, versé volontiers dans l'expérimental, et il va commencer ses bidouillages divers dans le groupe glam Roxy Music. Il finit par s'y prendre la tête avec un autre Brian, Ferry, cette fois-ci, et le quitte, où il est poussé au départ, hein, suivant les sources.
L'histoire ne le dit pas précisément.
Il travaille ensuite avec Robert Fripp et tant d'autres. On retient notamment sa collaboration à la mal nommée trilogie berlinoise de Bowie, Low Heroes et Lodger. Si son premier album, Here Come the Warm Jets, intégrait encore les influences glam, avec son troisième album, Before and After Science, dont je vais vous passer un morceau, il laisse transparaître sa passion pour le krautrock et les sons électroniques et minimalistes qui préfigureront notamment son travail ultérieur sur la musique dite ambiante. Sorti en 77, produit par le génial Connie Plank, Eno, conforté par son travail avec Bowie, recrute notamment les teutons Hakim Rodelius et Moby Moebius de Harmony, le meilleur groupe du monde selon lui, ainsi que Phil Manzanera de Roxy Music, Phil Collins à la batterie, Robert Fripp à la guitare, que du beau monde. On va écouter By the River, qui est tout en délicatesse. C'est un titre qui lui aurait été inspiré par la vue qu'il avait depuis la chambre dans la ferme home studio de la campagne colonialiste de Connie Plank.
C'est parti, Brian Eno.
Le manche-disque.
Eh ben décidément, je sais pas ce qui se passe, Julien, ce soir. Je suis d'humeur, semble-t-il, à offrir de la sensualité à nos auditeurs après Marvin Gaye. J'ai choisi la voix suave de Sade. Ça s'écrit Sad, mais ça se dit Sade. War of the Hearts, issu de l'album Promise, sorti en 1985 chez Epic, un des albums les plus vendus de Sade. Sade, elle est très connue pour quiconque écoutait la radio dans les années 80. Nigériane, naturalisée britannique, elle est surtout connue pour sa voix envoûtante, comme vous avez pu l'entendre, qu'elle met en valeur dans un répertoire soul jazz. Et si, pour les plus jeunes d'entre vous, son nom ne vous dit rien, eh bien je vous renvoie vers ses tubes intemporels que sont The Sweetest Taboo, par exemple, ou Is It a Crime, qui est également présent d'ailleurs sur cet album, Promise, mais aussi Smooth Operator, Your Love is King, etc. etc. Vous tapez ça sur votre plateforme musicale préférée et vous allez vite remarquer que vous connaissez ces airs intemporels, comme je l'ai dit. Et puisque nous sommes dans le registre des voix féminines de la soul, je crois, Julien, que la transition est toute faite avec le prochain morceau.
Exactement, cette émission est aussi celle des belles transitions, puisqu'une reine chasse l'autre.
Voilà, l'émission 7, l'émission des transitions.
Exactement,
sans faire exprès.
J'ai envie de vous parler, moi, de Carla Thomas. Alors, on est un petit peu avant. À l'âge de 17 ans, Carla Thomas enregistre un titre avec son père, Rufus Thomas, Because I Love You, qui devient un hit. Premier vrai succès du jeune label Stax, qui s'appelait encore Satellite à l'époque. Son premier album en 61 la propulse reine de la soul. Elle enregistre notamment avec le roi de la soul, le célèbre Otis Redding.
Yes.
Sur cet album, The Queen Alone, qui sort en 1967, la reine est seule et elle chante All I See Is You.
Ouais. Il y avait un album en duo avec Otis Redding qui s'appelait The King and the Queen, je crois.
Oui, exactement.
D'où peut-être la référence à The Queen Alone.
Ouais, exactement.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5. On écoute Carla Thomas.
Yeah.
Quelle magnifique voix que cette Carla Thomas. Magnifique voix, aussi, au moins aussi belle que celle de Sade avant. Donc là, c'est vrai qu'en termes de genre féminine, je pense qu'on a bien mis en valeur ces voix qu'on aime beaucoup. Je pensais, pendant qu'elle chantait, à des bandes son de films, enfin que ça aurait pu,
ah oui, c'est très cinématographique,
peut-être un peu Tarantino, tu vois. Mm-hmm. On parlait de Nancy Sinatra tout à l'heure hors antenne. Voilà, c'est très agréable, ce genre de choses. Maintenant, je vais changer un petit peu de style avec le morceau qui suit, puis je vais vous faire quand même écouter un morceau qui représente tout ce que j'aime dans un style déjà évoqué dans le manche disque. Absolument incontournable dans le monde du disque vinyle, qui est la Library Music. Alors attention, pour ceux qui nous ont, qui ont peut-être survolé simplement les précédentes émissions, c'est pas du tout la Library Music, une musique de fond sonore pour lecture en librairie. Pas du tout. En fait, le terme library, elle renvoie plutôt aux catalogues musicaux qui sont élaborés pour divers habillages audiovisuels, que ce soit des génériques ou des bruitages ou plein de choses comme ça. Et pour ceux qui suivent, on en a parlé lors de notre dernière émission, il y a 15 jours, quand je vous ai parlé du job alimentaire de Pierre Bachelet, notamment, et de son projet Résonance. Voilà. Donc, certaines petites pépites composées, élaborées à des fins audiovisuelles, eh bien, sont parfois tout à fait charmantes à entendre. Elles sont compilées très régulièrement aujourd'hui, puisque ça revient aussi à la mode, ce genre musical.
Oui, effectivement, à l'époque, c'était des disques hors commerce que possédaient les maisons de disques et qu'elles achetaient directement aux producteurs. Et pendant plusieurs années, jusqu'à très récemment, c'était soldé à très vil prix. C'était vendu pour rien du tout dans les boutiques. Les gens s'en débarrassaient. Et puis, les diggers, les passionnés de vinyle, ceux qui mixent, se sont un peu rués dessus parce qu'ils ont vu le potentiel. Et les prix aujourd'hui de librairies originaux, d'albums originaux, sont très très élevés.
Oui, parce que
nombreuses rééditions.
La demande, en fait, a fait monter les prix. C'est vrai que c'est des morceaux qui sont des petites pépites, parce que non seulement elles sont super sympas, super entraînantes, des fois les compositeurs se sont vraiment fait plaisir. On a l'impression qu'il y a un côté. Moi, ce que j'aime dans la library music aussi, c'est que les compositeurs ont l'impression qu'il y a un côté sans pression.
Ouais.
C'est pas fait pour vendre des millions d'albums, c'est pas fait pour faire carrière, c'est vraiment fait pour un projet bien précis. Donc, on se lâche un petit peu, on peut peut-être expérimenter des choses qu'on n'expérimenterait pas si on avait souci son image d'artiste, etc. Et puis en plus de ça, en plus d'être sans pression, c'est aussi un petit peu méconnu, quoi, du coup. Puis vu que ça s'est sorti que dans des...
Oui, à très peu d'exemplaires.
Très peu d'exemplaires, c'est aussi ça qui est sympa avec la library music, c'est qu'on chope des perles méconnues, des rares grooves, comme on dit. Hein.
Les morceaux, des fois, ne sont même pas titrés, en fait. On va avoir juste une description, genre début rapide, puis passage frénétique électronique, ou ce genre de choses dans lesquels après les programmateurs de télévision ou de radio pouvaient puiser, quoi.
Ouais, carrément. Donc du coup, là, ça va être un bon exemple. Bon, il est titré, hein, celui-là. Il s'appelle Flying Squad. Il est composé par le claviériste Kenny Salmon en 1974, et donc il est issu d'une compilation extraordinaire dans le genre de la library music. Si vous voulez vous lancer là-dedans, moi je saurais que trop vous conseiller la compilation qui s'appelle Dramatic Funk. Elle est déclinée en 4 volumes. Elle est parue entre 2008 et 2015, donc on voit que c'est tout le marché de la réédition de la library, chez Show Up Records. C'est donc 4 très beaux objets, des très beaux visuels en plus, qui évoquent les polars, l'ambiance de polars, policiers, films d'action. Voilà, c'est
essentiellement
très, très beau.
Britannique, je crois, les morceaux.
Alors
le coup,
premier, je crois, est issu du catalogue britannique Theme International Music. Pour les autres, je suis un petit peu moins sûr, mais dans tous les cas, ça revendique en tout cas des rares grooves, hein, donc ce que je disais tout à l'heure, des pépites peu connues. Donc trêve de parlotte, vous allez très vite vous rendre compte de quoi je parle avec ce Flying Squad, donc de Kenny Salmon, tout de suite. We'll be right back.
groove à mort.
Et ouais, en espérant que ça vous a donné envie de vous intéresser vous aussi à la library music. Qu'est-ce qu'on s'écoute maintenant, mon cher Julien ?
Eh bien, on s'écoute un morceau que j'ai découvert dans une compile bien sympathique, élaborée par Gary Crowley. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne le connaissais pas, c'est un DJ anglais qui a plusieurs émissions de radio, et ce depuis plusieurs années. C'est une compile en deux disques, éditée par Damon Records, et qui s'intitule, c'est très simple, hein, Gary Crowley's Punk and New Wave. J'ai choisi un morceau du premier disque d'un groupe qui s'appelle Spitzenergie. Spitzenergie, c'est avant tout l'œuvre de Kenneth Spires, aka, enfin aussi connu sous le nom de Spitz. En 77, après un concert de Siouxsie and the Banshees, il saute sur scène, je vais y arriver, et se met à chanter. Il y gagne un contrat. C'est la pleine époque du punk, hein, le do it yourself, et voilà. Donc avec des potes, il forme alors Spitzenergie, et le groupe a la particularité de changer de nom chaque année. Atletico Spitz 80, Spitz Oil, The Spitzels, etc., etc., etc.
Un peu déroutant quand même.
Ouais, complètement. En fait, c'est une pratique que Spitz va tenir longtemps. En fait, jusqu'à ce que sa demande d'entrer dans le Guinness Book des Records pour le titre d'artiste ayant interprété le plus grand nombre de morceaux sous différents noms lui soit refusée.
D'accord.
Et à partir de là, il va arrêter. Alors, est-ce que c'était...
C'était son objectif, peut-être. Il est trop déçu, le mec.
Voilà. On peut imaginer sa déception. Ou alors, c'est qu'il en avait marre. Ou... Enfin, voilà. Donc,
Moi, je m'imagine aussi que c'est peut-être pour justement contrecarrer toute cette course au succès réputation.
Oui.
Au moins, paf, tu fais feuille blanche à chaque fois. Les gens t'écoutent avec des oreilles toutes neuves. Et puis,
oui, voilà, complètement. Puis on est en plein au moment de l'explosion du punk et de cette logique-là. Ça me fait aussi penser, j'aurais peut-être l'occasion de vous en passer, mais à SPK aussi, ce groupe indus australien dont les initiales restent toujours SPK, mais le sens change à chaque fois. Donc voilà, on en reparlera. Donc là, en fait, je vais vous passer un morceau qui s'appelle Soldier Soldier. C'est un single de 1979 paru chez Rogue Trade et qui ensuite, sous le nom de The Spitzels, est sorti sur l'album Spiky Dream Flower de 80. We'll be right back.
Alors c'est très sympa, ça. Il y a un côté, c'est marrant, il y a un côté punk, il y a un côté pas punk du tout.
Ouais, peut-être un peu cold wave, new wave, enfin ce qui a suivi peut-être un peu.
Un côté punk dans le punk en fait, punk de punk. Voilà. C'était bien rigolo en tout cas et bien bon aussi. Voilà, donc on en arrive à la fin de l'émission, presque à la fin, toujours. Il faut préciser, presque à la fin. Ne nous quittez pas tout de suite. Comme annoncé dans le sommaire de l'émission, nous allons maintenant écouter l'interview d'Emmanuel Pied, disquaire et organisateur du Salon international du disque de Nantes, qu'on a rencontré, vous l'aurez compris, samedi dernier lors de l'ouverture du salon. Julien et moi, on a été claquer notre fric.
Oui.
Ainsi que Matt, qu'on a écouté aussi tout à l'heure, cher auditeur par téléphone, qu'on remercie encore d'ailleurs.
Oui, merci beaucoup.
On vous dit donc à dans 15 jours, en ce qui nous concerne, comme d'habitude, sur les ondes de Radio G. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site internet de Radio G ou alors sur notre page Facebook, tout simplement intitulée Le Manche Disque. Bonne nuit à tous et
à dans 15 jours.
Ne manquez pas l'interview à suivre d'Emmanuel Pied. Au revoir. Donc je suis avec Emmanuel Pied qui est organisateur du Salon international du disque de Nantes, qui a lieu donc aujourd'hui, samedi 7 décembre, qui aura lieu aussi demain, dimanche 8 décembre, à la Trocardière à Nantes, où on a le plaisir avec Julien d'être présent, et donc de rencontrer Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Donc tu es organisateur de ce salon, comme je l'ai dit, je vais peut-être te laisser le présenter un peu plus pour nos auditeurs.
Eh bien, écoutez, le salon existe depuis maintenant 13 ans, c'est la 13e édition. Donc c'est un salon qui accueille donc surtout des disquaires, des collectionneurs, des maisons de disques aussi. Ils vendent essentiellement du vinyle, mais aussi du CD, du DVD. On trouve aussi des objets publicitaires sur les artistes. Et puis aussi des livres. C'est un salon que je qualifierais de familial parce que le public est très divers. Il peut y avoir ceux qui ont connu le tout début des yéyés, par exemple, les années 60, qui recherchent des disques qu'ils n'avaient pas trouvés à l'époque. Ils viennent avec leurs enfants ou petits-enfants qui, eux, n'ont jamais connu le vinyle. Ils le redécouvrent. Donc voilà, c'est un salon bien implanté à Nantes, peut-être un des meilleurs en France en termes de fréquentation et de nombre de marchands. Alors, il y a à peu près une centaine de disquaires, c'est sur 2 jours, voilà. Donc des salons de cette taille-là en France, même à Paris, on en trouve très peu. Cette année, on accueille un Hollandais qui vient de Utrecht et puis aussi un Allemand qui vient de Berlin quand même.
D'accord. Et je crois que la nouveauté de cette année, c'est un stand qui met en valeur les artistes régionaux.
Voilà, donc on est un salon international, mais aussi très local en fait, puisque on met en valeur les groupes de la région nantaise qui ont enregistré des disques, évidemment, et qui ont parfois du mal à les promouvoir, à les vendre. Donc là, on les met en valeur.
D'accord, donc merci beaucoup Emmanuel pour nous avoir invités déjà à ce salon, nous avoir aussi offert les invitations qu'on a fait gagner dans les émissions précédentes du Manche Disque. Et maintenant on va basculer sur les questions rituelles de l'interview du Manche Disque, un petit peu plus personnelles, dont la première. Emmanuel, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as entendu écouter un vinyle ?
Alors là oui, parce qu'en fin de compte... j'avais dans ma famille, on avait des disques flexi offerts par Peck Citron ou Banania. Et donc, voilà, je m'amusais avec ces disques-là. Et j'avais peut-être 2 ans quand j'ai posé un saphir sur un flexi. Comme ça, j'ai appris le rituel de mettre un disque sur une platine, déjà à 2 ans. C'était des orchestres qui reprenaient des grands standards de l'époque. Donc, il y avait Chelas, Navour, mais chanté par d'autres personnes.
Est-ce que tu te souviens, alors un petit peu plus tard certainement, quand tu as commencé à gagner ta vie, quel est le premier disque que tu as acheté ?
Le tout premier disque que j'ai acheté avec mon argent de poche, c'était plutôt l'argent de mes étrennes en fait, c'était à l'âge de 8 ans, et c'était un 45 tours de Queen, la musique du film Flash Gordon.
Comment tu t'expliques en fait le retour du vinyle à l'heure actuelle ? Parce que c'est vraiment que c'est la thématique de l'émission. Quel est ton avis sur le retour du support vinyle dans l'industrie musicale ?
Alors je pense que c'est un petit peu un retour à l'objet, c'est-à-dire que les gens finalement trouve que tout ce qui est numérique, ça n'a pas d'âme en fait, c'est un peu désincarné. Donc là, on a un support avec des belles pochettes qu'on peut montrer, qu'on peut partager. En plus, le son du vinyle, c'est un son particulier qu'on retrouve difficilement sur le CD. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà ceux qui avaient connu dans leur jeunesse reviennent. Mais ce qui est étonnant, c'est que les jeunes générations aussi trouvent que le support est vraiment sympa. Donc je pense que c'est une mode, d'accord peut-être, mais je pense qu'il y a des gens qui découvrent aujourd'hui qui vont rester vinyle.
Et alors à titre personnel, est-ce que toi tu te définis comme un collectionneur ?
Alors pas vraiment, parce que un collectionneur c'est celui par exemple qui va acheter tous les disques des Beatles, mais en pressage japonais, pressage anglais, pressage français, etc. Donc il aura plusieurs fois les mêmes morceaux. Non, moi j'achète des disques avant tout pour écouter. Quand un disque ne me plaît pas, eh bien je le revends. Quand il me plaît bien, je le garde. Puis voilà quoi. Donc j'ai quand même une discothèque personnelle de à peu près 3000 vinyles, 33 tours à peu près. 45 tours, j'ai pas compté. Mais c'est des disques que j'ai au moins écoutés tous une fois. Hein, donc, alors que les collectionneurs, ils achètent des fois, ils achètent peut-être 20-30 disques la journée, puis après ils stockent ça dans un coin ou ils les mettent sur les étagères pour décorer. Mais voilà, donc je me considère plus comme un amateur qu'un collectionneur.
Voilà, donc c'est la musique d'abord en fait.
La musique d'abord, avant le support.
Ok. Eh bien, en parlant de musique, est venu le moment, Emmanuel, de choisir un morceau qui fera la clôture de l'émission ce soir.
Les Buggles, vous connaissez les Buggles ?
Oui.
Video Kill de The Radio Star.
Eh bien, très bien. Hein,
pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Radio G 101.5 FM.
Radio G 101.5 FM.